Salut Manuel, salut Augustin.
Salut Romain.
Bonjour, bonjour.
Welcome to the new podcast.
Avec l'accent.
Pourquoi en anglais?
Je sais pas, j'avais envie.
D'accord.
N'importe quoi. Non,
mais vous allez bien?
J'ai inscrit à des cours d'anglais là récemment.
Oui.
Ouais. Oui, ça va pour tous les deux?
Oui.
Oui, ça va.
Vous êtes bien accrochés, on a un sujet costaud aujourd'hui.
Ah.
C'est vrai.
On va parler d'un sujet où pas tout le monde est forcément informé,
ou
bien
pas
informé.
Tout le monde.
Ou pas tout le monde.
Ou pas tout le monde.
Pas tout le monde, non,
non
bah, tu peux continuer en anglais, parce qu'en français, c'est pas ouf, Romain.
Ok, so I just want to say not everybody knows that, so this subject
s'il
is...
Te plaît.
Okay.
S'il te plaît, Romain.
On arrête là?
Oui.
Ok.
Ah là là, j'ai mal aux oreilles.
La vie privée existe-t-elle encore? Voilà le sujet d'aujourd'hui, les gars. Je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ne font plus vraiment la différence entre leur vie privée et leur vie publique. J'entends beaucoup de gens me dire... Je n'ai rien à cacher de toute façon. Cette phrase, je la trouve juste magique.
C'est sûr.
Elle est ouais. assez folle parce que finalement, si tu devais intégrer une caméra qui serait dirigée par un inconnu chez eux, là, tout d'un coup, il y aurait un petit problème. Ils se diraient, attends, c'est bizarre de faire ça alors que quelqu'un que je connais pas me regarde. Sauf qu'en fait, indirectement, on fait un petit peu tout ça aujourd'hui. On va évidemment parler d'Internet. Avant d'en arriver là, je pense qu'il faut parler d'un point de vue physique et réel. Est-ce que tous les jours aujourd'hui, on gère correctement notre vie privée avec les gens qu'on rencontre dans la rue, qu'on rencontre au restaurant, qu'on rencontre en soirée quand il y en avait encore.
Le restaurant, d'ailleurs, c'est l'actualité.
C'est l'actualité, le restaurant. Les restaurants vont en savoir de plus en plus sur nous sans, sans forcément notre consentement.
On pourra en parler.
Parce que pour faire l'actualité, on tourne à Paris à un moment où les bars ferment et les restaurants restent ouverts avec des nouvelles précautions.
Qui sont très high-tech d'ailleurs, Manuel, tu peux nous en parler un petit peu?
C'est avec un stylo d'ailleurs. Hein.
Non, c'est fascinant, ça se passe avec un bout de papier et un stylo. Donc maintenant, les restaurateurs, comme s'ils n'avaient pas assez de contraintes sur les épaules, on leur demande de prendre les coordonnées de tous les mecs qui bouffent chez eux, heure par heure. Alors évidemment, c'est panique à bord, hein, puisque c'est une nouvelle directive. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils impriment des bouts de papier, ils te filent un stylo.
Même avec les réservations en ligne?
Alors,
ou tu penses que ça va? Ils n'en sont pas encore là.
Ils sont pas là. Tu vois que tu es réservé par la fourchette ou pas, etc. Bon, tu arrives dans le resto, tu as Jean-Jacques qui t'installe à la table.
Qui dit, je vais prendre votre nom.
Il dit, voilà, est-ce que vous pouvez remplir cette fiche, etc.
Je m'appelle Simone.
Pourquoi? Parce que s'il y a un cas Covid au moment où tu as bouffé, les restaurateurs vont avoir pour responsabilité de te prévenir et de te dire d'aller passer un test.
Bon, tu donnes ton vrai prénom, toi, ou pas, dans ces moments-là?
Non, moi, je m'appelle Augustin. Hein.
D'accord. Et toi, Augustin, tu t'appelles Manuel?
Exactement.
Et donc, le truc, c'est que c'est super, sauf que tu donnes tes coordonnées, ton numéro de téléphone...
Et ton mail, etc., tu donnes ton mail.
Et ton mail et tout ça, à un être humain...
Que tu ne connais pas. Et qui ne s'est pas engagé solennellement.
Cette information n'est pas cryptée, n'est pas contenue dans un système, elle est sur un bout de papier. On ne sait pas trop que ce bout de papier va devenir à l'avenir. Et en parallèle... Sur Internet, on a la CNIL qui se défend et qui défend le concept de la vie privée et qui condamne des sites Internet qui ne la respectent pas. Et on a à l'échelle européenne la RGPD qui est une loi pour simplifier sur la protection de la vie privée, pour faire simple.
C'est donc, pour simplifier encore plus, pour les gens qui ne comprennent pas la RGPD, c'est le nouveau truc que vous avez quand vous arrivez sur les sites où il y a marqué « accepter tous les cookies ou refuser ».
Ouais. Par exemple, c'est une des formes d'expression de cette loi. Et donc, le monde numérique et le monde analogique ne vont pas du tout à la même vitesse. C'est-à-dire que d'un côté, il est parfaitement acceptable de donner des data privées sur un bout de papier à un serveur dans un restaurant. Et de l'autre côté, il faut te rendre complètement compliant à la RGPD et aux directives de la CNIL si tu as une activité numérique. On marche un peu sur la tête.
Donc vous faites attention aujourd'hui, dans la vie de tous les jours, à qui vous laissez votre numéro de téléphone, à qui vous laissez votre nom, votre prénom, à qui vous donnez rendez-vous et à quel endroit. Je suppose que quand vous rencontrez une personne pour une première fois,
j'ai
lui donnez pas...
J'ai l'impression que t'es un dealer.
Mais non, vous lui donnez pas rendez-vous chez vous, par exemple, la première fois.
À qui?
À
une personne que vous connaissez pas.
Si c'est ma mère, si, par exemple, tu vois. Non,
mais... Vous ne la connaissez pas,
évidemment,
Manuel.
Évidemment, tu donnes pas rendez-vous chez toi la première fois.
Ok, d'accord. Non, mais c'est très intéressant parce que justement, on va partir après du côté d'Internet où tu peux te connecter à des sites que tu ne connais pas du tout et ouais. à qui tu laisses, par exemple, ta position quand tu utilises certains sites. Donc là, tout d'un coup, il y a plus de problème pour Augustin, tu vois, dans ce premier cas de figure. Je ne connais pas quelqu'un dans la vraie vie. Jamais il viendra chez moi. Par contre, je me connecte à un site Internet pour la première fois. Aucun souci.
Ah non,
il utilise.
Arrête.
T'as un pop-up maintenant avec la position. C'est mort. Non.
On dirait ma mère. Ouais. Quand je lui explique quelque chose, tu sais, elle se défend et puis je vais vérifier et il n'y a rien qui va.
Quand même attention.
Quelles sont pour vous les informations que vous ne souhaitez justement pas donner à un inconnu dans la vraie vie, les principales informations.
Il n'y a rien que...
Quasiment aucune, en fait.
Tout le monde connaît, tout le monde... Bah, c'est... En fait, on va spoiler le titre du podcast. Hein.
Mais je l'ai dit au tout début. Hein.
Oui, mais on va le redire, c'est non, quoi.
La vie privée existe-t-elle encore ?
Bah non.
Moi, je pense que la vie privée n'existe plus. D'ailleurs,
c'est fort comme phrase.
C'est un concept déjà, définition de concept. C'est un concept très particulier et qui est lié à notre culture. Si tu vas dans le monde anglo-saxon, le concept de vie privée n'est pas du tout le même que chez nous en Europe. On n'a pas le même rapport du tout à la vie privée. Chez les Anglais, la majorité des maisons ont des vérandas comme ça devant. Et quand t'as des Français qui vont s'installer en Angleterre, le premier truc qu'ils font, c'est qu'ils mettent des rideaux. Et là, t'as tous les voisins, les vrais Anglais, qui se disent « Putain, mais qu'est-ce qu'ils ont à cacher ?»
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Le concept même de la vie privée n'est pas le même en fonction de la culture dans laquelle tu as été élevé.
Après, ça reste humain de vouloir avoir des choses uniquement pour soi quand même.
Bien sûr, mais il faut vivre avec pragmatisme et lucidité aujourd'hui. À partir du moment où chacun est un média, c'est-à-dire à partir du moment où tu as un smartphone que tu peux... filmer, prendre des photos, filmer en direct, diffuser en direct, tout est public. Tu t'engueules avec quelqu'un dans la rue, c'est public. T'as un passant qui passe, qui le filme, qui le prend en photo, qui le publie, ça devient public.
C'est pour ça qu'il y a une effervescence de tous les scandales, de toutes les stars, de tous les gens connus, parce que tout est connecté tout le temps.
Peu importe où ça se passe dans le monde,
tout le monde est au courant le lendemain.
Exactement. Donc il y a une accélération du monde, tout le monde est un média, etc. Moi je trouve ça très bien, parce que ça pousse les gens à être des gens bien.
Ouais, mais il faut justement le voir comme ça, parce qu'au final, je trouve que ça a poussé certains sujets qui n'étaient pas du tout mis en lumière à être réglés, qui étaient des réels soucis dans la société. Le comportement de certaines personnes dont on ne savait même pas qui se comportaient comme ça aujourd'hui, tu le vois vachement rapidement. Les hashtags qui pop en même pas 24 heures sur Twitter pour dénoncer telle ou telle personne.
Il y a aussi le Facebook check quand il y a un truc qui se passe, attentat ou des inondations, ce genre de choses. Tout de suite, les gens savent si tu es en sécurité. Il y a plein de choses.
Mais du coup, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien?
Ça, c'est les côtés... Bien évidemment, c'est le côté positif.
C'est le safety check.
Et pourtant, c'est Facebook. Alors, qu'est-ce que c'est négatif sur beaucoup de choses? Mais alors là, ok, ça, t'es ok pour dire je vais bien, je suis là.
En fait, c'est toujours pareil. Le concept de vie privée ou de vie publique, c'est vis-à-vis de la technologie, ça dépend ce qu'on en fait. Quand on utilise tes coordonnées GPS pour vérifier si t'es en bonne santé, si tu n'as pas été affecté par un événement, une catastrophe naturelle, un attentat ou autre, tout le monde trouve ça très bien. C'est le safety check de Facebook et c'est parfait. Quand on utilise ces données pour mieux te cibler à ton insu, alors que t'as pas vraiment donné ton consentement explicite ou que t'as pas regardé vraiment toutes les dispositions de comment on allait utiliser ces données et pourquoi faire, là c'est un peu plus contestable. En fait, la question, c'est la question du consentement. Mais il faut arrêter de jouer la vierge effarouchée. Nos vies sont publiques et à partir de là, bah, il faut juste l'accepter. Si tu veux pas que ta vie soit publique, eh bien, il faut qu'elle se
devient Natacha Campouche, non?
Il faut qu'elle se passe dans une pièce dans laquelle il n'y a aucun device technologique et dans lequel
entre
tu
quatre
fais
murs,
ce que tu veux, comme tu veux, et seule ta morale et la loi peuvent te juger. Mais pour le reste, à partir du moment où tu vis à notre époque avec la technologie qui nous entoure, sache que le concept de vie privée, eh bien, il porte bien son nom, c'est un concept.
Je pense aujourd'hui que ce concept-là, justement, a des atouts positifs, comme on le dit jusqu'à présent, mais ces atouts-là et cette technologie a très vite évolué pour recueillir un max d'infos sur nous, surtout parce que c'est comme ça que les réseaux sociaux, que les applications aujourd'hui sont rentables avec des utilisateurs qui ne payent pas pour utiliser les applications. Je pense qu'aujourd'hui, si le moyen monétaire, si chacun, par exemple, pourrait utiliser Facebook, chacun payait 50 euros par mois, peut-être qu'on serait plus en droit de demander à Facebook de moins recueillir d'infos sur nous.
Mais c'est cet adage qu'on a, je crois, déjà cité dans un autre épisode du podcast. Je ne sais plus lequel puisque je ne les écoute pas, mais c'est « If you don't pay for the product, you are the product ».
Ah oui.
Donc,
d'ailleurs, et je vous invite à le voir parce que je sais que vous ne l'avez pas vu, les gars, allez voir le film Netflix « Un écran de fumée ». Il est juste incroyable.
Derrière nos écrans de fumée.
Derrière nos écrans de fumée.
Voilà. C'est dans ma watchlist, Romain, mais on a tous un peu moins de temps.
Vous verrez.
Je suis désabonné de Netflix, je ne suis toujours pas réabonné.
Merci de tweeter sur le hashtag takeout pour bâcher violemment Augustin.
Et, je ne prends pas le temps de regarder Netflix, je fais d'autres choses et donc je me suis désabonné.
Là où parfois j'arrive pas trop à comprendre, parce que je trouve que dans ce sujet on est vraiment le cul entre deux chaises, d'un côté on comprend toutes les applications qu'on utilise gratuitement et qui, elles, arrivent à être rentables grâce aux informations qu'elles recueillent sur nous pour les vendre dans de la publicité, et d'un autre côté on va demander à certaines applications qu'on ne veut pas payer de recueillir de moins en moins de données sur nous. À quel moment ça va imploser et qui gagnera quoi en fait?
Alors, je ne sais pas ce qui a changé, là, on parlait de la RGPD en Europe, je ne sais pas ce que ça a changé véritablement pour ce genre d'application. Manuel est plus connaisseur de la chose, mais il y a quand même eu un gros changement il y a un an et demi avec l'Europe qui a du coup légiféré pour justement réduire ce genre d'abus. Je ne sais pas si ça a vraiment changé les choses et s'il y a eu vraiment un step-up dans ce truc-là.
Bah déjà, la RGPD, c'est un acte politique.
D'accord.
C'est un acte politique parce que c'est l'Europe qui dit « Ok, on a perdu la guerre des plateformes. La majorité des plateformes aujourd'hui qui sont utilisées dans le monde entier sont américaines. On veut reprendre un peu la main politiquement. »
On voit ton téléphone, hein, je le rappelle, parce qu'on est toujours sur YouTube, évidemment. Je le dis.
On veut reprendre un peu la main sur la façon dont ces plateformes sont utilisées et les conditions d'usage de nos utilisateurs. Donc nous, en Europe, on est attaché à la vie privée, donc on va légiférer, on va faire passer une loi pour dire qu'on ne peut pas faire n'importe quoi.
D'accord.
Avec les données de la vie privée. D'ailleurs, il y a des boîtes américaines qui se retrouvent là-dedans, puisque Apple, par exemple, a mis en exergue le concept de vie privée et s'est différencié de la compétition en disant chez nous la vie privée c'est important au point d'en faire un claim publicitaire.
Mais là où je compte
aujourd'hui de l'affirmer dans chacune de ces keynotes et de rappeler chaque fois qu'ils annoncent un nouveau produit, une nouvelle feature, etc., etc.,
sécurité, sécurité,
chez eux,
sécurité,
la vie privée n'est pas prise vraiment par-dessus l'épaule. Tu vois, c'est un truc extrêmement sérieux.
Sur la dernière Watch, là, encore une fois, juste à la fin de la présentation de la Watch, ils refont 5 minutes sur la vie privée.
Mais ils ne vendent pas que du software. On ne peut pas comparer une boîte comme Apple qui vend du hardware avec laquelle tu achètes un produit, qui rentabilise du coup la vente de produits et la mise à disposition du software, aux boîtes qui ne te vendent qu'un software. Si je peux prendre deux exemples vraiment contradictoires, avec Facebook, j'achète rien de chez eux. Et pourtant, j'utilise leur plateforme, leur cloud H24.
Oui, mais Facebook fait du hardware. Tu l'as testé en vidéo, ça s'appelle Portal.
Ouais, ça marche pas. Et on sait que Facebook, aujourd'hui, son gagne-pain, c'est de la publicité et c'est de la vente de données.
C'est la data.
C'est de la data.
C'est la data. Et on voit à quel point Facebook on va dire, à minima, on ne va pas être accusateur, mais à minima, était imprudent sur la question de la data. Et
ils
à
ont
quel
fait
point
les kékés, hein.
Son CEO a valorisé la data utilisateur. Le modèle, c'est j'exploite un maximum de data. Ça a donné lieu au fait que Zuck ait été entendu.
Ah, Zuck, putain, je ne comprenais pas. Pardon.
Tu pensais au méchant dans Toy Story ?
Non, c'est Zorg.
Oui, je sais. C'est...
Bon, et était entendu par le Sénat,
ouais,
et etc., etc. Et ça l'a obligé au moins une fois dans sa vie à mettre une cravate. Mais
qui lui allait pas bien. Hein.
Non, pas du tout. Pas du tout. C'était pas crédible du tout. Mais au moins, il a dû s'expliquer. On a vu à quel point il était en difficulté. Donc,
oh,
si tu veux, il y a des. Les compagnies sont aussi maintenant jugées sur le niveau de respect qu'ils mettent dans leur rapport à leurs utilisateurs. Alors, tu as Apple qui dit bah, chez nous, on processe de l'info directement dans le hardware et on la monte même pas dans le cloud. C'est le cas de Face ID et autres où c'est processé directement dans le hardware de ton téléphone. Donc, de toute façon, cette info, elle n'est pas ailleurs qu'au moment où tu set up ton device, en fait. Tu as Google qui est sur une position un peu intermédiaire.
Ah oui, parce qu'ils vendent du hardware et du software.
Ouais, mais c'est pas lié au hardware ou au software. C'est juste qu'ils veulent pas exposer leur business, donc ils font des efforts, etc. Mais ils partaient de loin parce que traquer les utilisateurs, ça leur permettait d'avoir du comportemental, et ce comportemental permet de mieux les cibler. Et la poule aux œufs d'or chez Google, c'est quand même les AdWords. Et t'as Facebook qui faisait totalement n'importe quoi et qui essaye de redresser la barre et de se racheter une virginité.
Mais dans tout ça, du coup, Manuel, la question pour moi, elle est simple, c'est comment demain Facebook pourrait continuer de gagner sa vie de la même manière sans vendre nos data. Quel va être le moyen de substitution pour arrêter de consommer les data de ses utilisateurs à outrance, comme ça a été le cas et ça a fait les scandales Cambridge Analytica?
Bah, c'est très compliqué parce que ça veut dire qu'il faut aller chercher le consentement des utilisateurs. À partir du moment où les utilisateurs comprennent à quoi vont servir ces data, bah, ils ne donnent pas leur consentement facilement.
Mais les gens lisent pas les conditions générales, ils
non,
acceptent.
Pas du tout. Ils les lisent pas.
Et ils seraient perdants demain à faire un abonnement, comme à Netflix, parce que par exemple quand j'avais pu discuter avec les équipes de chez Netflix ou Amazon avec qui on a travaillé par exemple récemment, qui me racontaient qu'aujourd'hui eux avoir de la publicité classique sur Amazon Prime par exemple pour les contenus vidéo, c'était inimaginable d'avoir au milieu de deux séries une affiche publicitaire.
Mais ils font vraiment autrement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui plutôt que de mettre cette pub là, ils vont dans le film mettre des objets et tous les objets du film, tout ce que tu vois dans le film est achetable sur Amazon.
Mais ils partent de, en fait ils sont partis de zéro, ils avaient tout à créer. Et Facebook aujourd'hui, qui sont des mastodontes et qui n'ont que connu cette recette-là, comment est-ce qu'ils vont faire à évoluer si justement toutes nos données privées, on les veut de plus en plus privées? On n'a pas la réponse.
Peut-être que la trouveront dans les années à venir, mais pour l'instant, c'est dur.
Et c'est pour ça qu'ils développent des lignes de services B2B. Donc Facebook a déployé des services B2B comme Workplace, par exemple.
Ça a combien de temps, Workplace?
Ça a quelques années, 2-3 ans, je dirais, okay. Un truc comme ça. Là, tu payes une vraie licence. Mm-hmm. Et là, tu as une vraie licence dans laquelle tu sais où sont tes données, où est-ce qu'elles sont hébergées, sous quel régime réglementaire, en Europe ou aux États-Unis.
Workplace, pour expliquer aux gens, c'est comme Facebook, mais pour les entreprises. Vous avez un genre de Facebook, mais avec des groupes, par exemple le groupe marketing, le groupe graphiste qui parlent ensemble.
Et c'est privé et uniquement pour la boîte.
C'est privé, c'est un Facebook uniquement avec votre société et avec aussi WorkChat en plus, qui est le messenger privé.
C'est ça.
Business.
C'est un Facebook privé pour les boîtes, en fait. Et donc, chacun va aller chercher son modèle. Et en fait, je pense que c'est assez révélateur de la culture des boîtes et de comment ils valorisent la donnée privée. Mais c'est au fond de l'ADN d'Internet, en fait. L'ADN d'Internet, c'est beaucoup de gratuit. On n'aime pas trop payer pour des services sur Internet.
Ça change.
Et en fait, c'est en train de changer. Pourquoi ? Parce qu'on est en train de dire aux utilisateurs, ben voilà, faites un choix. Vous voulez un service gratuit ? Vous voulez pas payer pour ce service, eh bien vous allez nous donner vos datas et ces datas vont nous permettre de maintenir ce service, de le maintenir innovant et de le faire évoluer. Si vous ne voulez pas qu'on utilise vos datas, eh bien nous allons devoir vous facturer ce service.
Les gens diront oui.
Et après, chacun fait son choix. Moi, je pense beaucoup que les services vont évoluer vers différents modèles. Enfin, c'est ce qu'on appelle le modèle du premium. C'est-à-dire, soit tu as un service gratuit, on utilise des datas, soit tu payes un peu et on n'utilise pas trop tes datas, soit tu payes un peu plus et on n'utilise pas du tout tes datas. Et chacun va dire, bon, ben voilà, ben, moi, mes datas, je ne veux pas les donner à un tel parce que je n'ai pas confiance et donc je paye. Ou moi mes datas, j'en ai rien à foutre, je suis capable de les donner et je paye pas.
Maintenant, la plupart des gens, ils connaissent les datas avec Facebook, etc., parce qu'il y a des scandales qui ont fait beaucoup de bruit. Et pour autant, ces mêmes personnes, elles arrivent à la gare et elles se connectent à un Wi-Fi public. Donc je pense qu'il y a aussi un gros manque de compréhension par le grand public, parce qu'aujourd'hui...
Sans VPN surtout.
Ouais, ne pas vouloir avoir un compte Facebook en disant « Ah non, moi, ils vont pas recueillir mes données personnelles, je veux garder ça pour moi. » Et puis arriver à la gare de je ne sais où et se connecter au Wi-Fi public sans VPN pour qu'on ait accès exactement à tout ce que tu fais sur ton ordi... C'est vachement contradictoire. Je pense que l'éducation du numérique, mais pourtant ça fait déjà plus de 15 ans qu'on a Internet et j'ai l'impression qu'on en est encore qu'au début de l'éducation du numérique
plus
pour
de
beaucoup.
20 ans même.
Oui, c'est vrai.
Oui, c'est vrai qu'il y a un manque d'information. Il y a un manque d'informations. On voit des mecs ultra équipés en adblockers, qui se sont créés des fausses adresses e-mail pour s'inscrire à des services, etc., qui protègent leur vie privée vraiment jusqu'au bout des ongles, et qui, dès qu'ils arrivent dans une gare, se connectent au premier Wi-Fi public venu et laissent leurs données passer en clair.
Le meilleur exemple, les gars, c'est moi. Hein. J'ai une adresse email toute pourrie que je file quand on veut me filer des trucs commerciaux et autres. À côté de ça, j'utilise tous les services de chez Google H24. Et si vous allez sur votre compte Google, si vous aussi vous avez un compte Google, dans My Activity,
ça fait peur.
Ah ouais, c'est flippant. C'est le point exact de ton GPS jour pour jour depuis que tu utilises Google Maps.
Ah, c'est vrai.
Moi, ça va mieux depuis que j'ai Brave.
Tu utilises un.
J'utilise un Chromium. C'est un Google Chrome où ils ont enlevé. Ils utilisent juste la structure de Chrome et ils mettent une surcouche par-dessus qui est Brave, qui est un...
Ça te plaît, ça, Manuel.
C'est une surcouche. Non, mais du coup, c'est vraiment...
Sinon, tu fais simple, hein. Tu utilises Safari, le problème est réglé.
Oui, mais, non, mais l'avantage de Brave, c'est là où c'est marrant, c'est que tu as de la publicité, toutes les publicités sont enlevées, rémunérées en crypto-monnaie.
Pardon, j'ai rigolé parce qu'il m'a dit que c'est
marrant. Ouais. Non. T'es rémunéré en crypto-monnaie, et voilà, c'est le côté un peu...
Ça fait peut-être triper des gens, j'ai autre chose à foutre de mes journées. Hein.
Mais ça change absolument rien. J'ai vraiment un Chrome, sauf que j'ai pas de pub, je peux tout bloquer. L'adblock est déjà intégré, en fait.
Il y a une dernière cible aujourd'hui qui, j'ai l'impression, n'est pas trop touchée, ce sont les seniors. Aujourd'hui, les seniors qui n'ont pas d'un portable connecté, qui n'utilisent pas Google ou autre. Et pourtant, j'ai vu récemment que la télé va venir essayer de toucher ces gens qui sont seniors, qui sont plus collés à la télé avec le câble via une box.
Pas que les seniors dans la télé, hein, mais...
Bah, aujourd'hui, les jeunes, en tout cas, utilisent Internet. On ne parle plus de télé, on parle d'un écran. Les constructeurs de télé ne vendent plus des télés. Ils vendent un écran sur lequel tu plugues une Chromecast, sur lequel tu vas connecter ton smartphone et où tu utilises des applications. Moi, aujourd'hui, la télé, elle ne sait pas ce que je regarde. C'est Canal+ qui sait ce que je regarde, parce que j'utilise MyCanal sur ma télé, donc ma télé n'est qu'un écran. Ce qui est intéressant, c'est que jusqu'à présent, on avait quand même du mal à se dire que Madame Michou, 90 ans, à 19h, elle allumait la télé, elle regardait telle ou telle émission. Mais vu qu'aujourd'hui, Madame Michou,
les opérateurs le savent déjà, mais ils ne savaient pas quoi en faire jusqu'à il y a 2 mois où ça a été voté, cette loi.
En fait, sur la télé, c'est pareil. Sur la télé, il va y avoir une guerre de la donnée. Si tu reçois la télé par le câble TNT, c'est un câble qui produit assez peu de data.
T'es un dinosaure, déjà, c'est ouf que tu nous écoutes. Si tu regardes encore la télé via un câble TNT, je suis trop content.
Il y a des gens à la campagne, Romain, tu sais, ça existe. Hein.
Mais il y a des gens à la campagne qui reçoivent la télé par la DSL.
Oui, c'est vrai.
Donc à partir du moment où tu reçois la télé par une box quelconque, sache que tout ce que tu regardes passe par la box. Donc on sait ce que tu regardes en direct, en différé, en replay.
Soit ton fournisseur le sait, soit l'application que tu utilises via la box le sait, type Molotov, qui elle l'a compris bien avant tout le monde.
Exactement. Et donc la question, c'est à qui tu donnes ta data ? Et est-ce que ces gens vont avoir l'autorisation d'utiliser cette data ? Et ça devient intéressant à partir du moment où tu te poses la question. Moi, je n'ai jamais compris, par exemple, pourquoi on voyait tous la même pub en regardant le même programme.
Parce qu'en fait, tu peux regarder des programmes. Par exemple, je ne sais plus, la dernière fois, j'étais chez un pote et il y avait la télé en fond dans une pièce. Et il y avait vraiment des pubs, genre pour la prostate, pour les maux de ventre et tout. Et tu dis, ok, c'est sûr, là, il y a de la pub, c'est une émission de vieux derrière. Et derrière, évidemment, c'était Déraciné des ailes ou un truc comme ça. Où évidemment, là, la pub est un peu ciblée. Mais moi, je suis jeune, je regarde ces émissions, j'en ai rien à foutre des pubs.
À ce moment-là, du coup, c'est positif qu'ils en sachent un petit peu plus sur nous. Parce que moi, ça m'intéresse de voir plus des publicités pour la Formule 1, pour les voitures, pour les nouvelles technologies, que de voir des couches pompères alors que j'ai pas d'enfant.
Quitte à voir une pub, autant qu'elle soit pertinente.
C'est ça.
Et
les gens apprennent sûrement moins la pub avec cette loi-là. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont changer. Je sais pas comment ça va se faire techniquement, mais il y aura entre guillemets des cookies à la télé. Ça veut dire que. Les annonceurs pourront diffuser des pubs suivant la personne qui regarde.
Ton FAI, c'est...
C'est quoi le FAI ?
Ton fournisseur d'accès,
pardon. Ah oui, pardon.
Fournisseur Bouygues, Orange, SFR, Monaco Télécom.
Exact.
Free, etc. Donc, il connaît la configuration de ton foyer, il sait si tu as adossé des abonnements mobiles pour toi, pour tes enfants, etc.
Il traque
etc.
même du coup ce que tu fais sur ton téléphone à la pause déj.
Il peut faire converger ce que tu fais avec ton trafic internet sur ton iPhone.
Si t'as MyCanal sur ton iPhone par exemple.
Ah ouais, bien sûr.
Et ce que tu fais sur ta télé, sur ta box en fait. Et donc ça devient intéressant parce que du coup la pub peut être beaucoup plus pertinente. Parce que moi si tu m'envoies de la pub pour des couches culottes alors que j'ai pas d'enfants. J'en ai rien à foutre.
Ça va, sinon, la prostate, tout ça. C'est
ma prostate va très bien, je te remercie, Augustin. Mais tu vois, on a. Voilà.
Quel lourd.
Le lourd.
Quel lourd.
Et donc, on accepte totalement que la pub soit ciblée sur Internet. Par contre, on accepte de vivre dans un système préhistorique à la télé, où on te balance une pub d'un annonceur qui l'a acheté de telle heure à telle heure, peu importe qui regarde. C'est complètement con.
Totalement.
C'est complètement con. À partir du moment où maintenant la télé est globalement très numérisée, pourquoi ne pas contextualiser la pub pour la rendre plus affinitaire, plus servicielle ? C'est ça qui devrait être...
Et puis, ça pourrait surtout être un avantage pour des plus petites structures qui n'ont pas des budgets pour toucher 3 millions de personnes, parce que de toute façon, elles ne veulent pas cibler 3 millions de personnes, elles veulent en cibler que 3 000, après, t'es fou pendant 30 secondes.
Non, mais après le journal de 20h, où c'est hyper cher, te dire, je peux y être, mais pour 3 000 personnes, ce serait fou. Non, mais en vrai,
ça serait incroyable.
Là, je suis pour une pub ciblée à la télé, parce que ça change un peu, ça rebat les cartes, et qu'est-ce que c'est chiant, les pubs télé, surtout. Il y a des moments, t'es là, non mais mec, qui regarde ça, qui a produit ça, quelle horreur.
Oui, et les grands consommateurs d'annonces publicitaires à la télé, c'est souvent des marques de grande distribution, des marques grand public. Bon, bah voilà, moi je mange pas de produits laitiers, je suis super content qu'on me fasse de la pub pour les yaourts, le fromage et le lait toute la journée, sauf que ça me concerne pas du tout. Moi je préfère dire à ces marques-là, bah, gardez votre argent pour parler aux gens qui consomment vos produits. Ça fait aucun sens. On trouve ça normal sur Internet et on trouve ça étrange à la télé.
Je pense que plus le temps va passer, moins on va pouvoir de toute façon se cacher. C'est déjà plus du tout le cas aujourd'hui. Donc qu'on soit devant notre télé, en bas de la rue ou chez nous, même dans notre chambre avec une Google Home ou des caméras.
Ah non, mais du moment que tu as un truc connecté, c'est compliqué. Et même, je fais l'anecdote de Lidl récemment, qui a voulu créer son concurrent au Thermomix, qui est vraiment une machine à faire des gâteaux et des glaces. Hein, vraiment un truc tout con.
À cuisiner.
À cuisiner. Ouais, c'est vraiment, quand t'as la flemme de cuisiner, tu mets tes trucs dedans, ça touille et ça fait un gâteau.
Ça touille, c'est mignon, ça touille.
Ouais. Ah si, ça touille, il y a un touilleur dedans.
C'est la vision d'Augustin. Voilà. Okay. En fait, c'est un robot quand tu cuisines.
C'est un robot de cuisine, mais en fait, le Thermomix d'origine, c'est un robot à 3000 balles. Hein. C'est vraiment un truc de fou.
Non, et... à 1000 balles.
Non, c'est 3000 le Thermomix.
Non, mais pas du tout Lidl, pas du tout.
Non, l'original.
Ah oui,
c'est 3000
oui,
euros.
Oui, au moins, oui, oui.
C'est au moins 3000 euros.
Pas du tout, mais vous êtes complètement.
C'est 3000 balles un Thermomix. Un Thermomix, c'est 3000 balles.
Bon, combien coûte un Thermomix Hashtag Takeout. Voilà, vous réagirez.
2 ou 3000 balles. Ouais,
j'en
et du coup,
pas, mais
c'est pas le sujet. Lidl a voulu créer son concurrent à genre 500 balles et on a découvert que dedans il y avait un micro. Alors qu'il n'y a pas de truc genre OK, mets-toi en route. Il n'y a pas du tout
d'assistant connecté.
Il n'y a pas d'assistant vocal.
Lidl s'était défendu en disant que justement, ils voulaient par la suite mettre à jour leur robot pour qu'on puisse lui demander de démarrer une recette ou autre.
Bien sûr.
En même temps, que ça soit mon robot qui m'écoute ou que ça soit mon Google Next Hub qui soit à côté.
Mais à la fin de la fin, ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est de se dire, bon, ok, la technologie est là, mais elle n'est qu'un révélateur de qui sont les gens.
Soyez de bons humains.
Exactement.
Ah oui, oui.
Soyez de bons humains. Si vous êtes de bons humains parce que vous l'avez décidé, c'est super.
Et vous avez rien à cacher.
Si vous êtes de meilleurs humains parce que vous avez peur d'être pris la main dans le pot de confiture à cause de la technologie, eh ben tant pis, moi j'estime que au moins ça fabrique de meilleurs humains, c'est déjà ça de gagné. Mais au fond du fond, la réalité, c'est soyez des chic types. Voilà, ça serait déjà pas mal.
On finira là-dessus.
C'est une bonne conclusion, je trouve.
Augustin, Manuel, merci d'avoir partagé ce sujet en podcast à mes côtés. J'espère que ce sujet vous aura plu. On se retrouve très bientôt. Dis-moi, Augustin.
Non, je voulais finir. Il y a une phrase de Kian Kojandi qu'il dit beaucoup, c'est « Soyez des bons gens ».
Oui, c'est vrai.
Voilà.
C'est vrai qu'il le dit. À très vite. Prenez soin de vous. Ciao tout le monde.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more.
And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.